Bonjour à tous. Alors, on va continuer, Élie, mais je ne peux pas résister à la tentation de parler de l'unité dans l'amour. Et il y a un exemple, si vous aimez un peu regarder l'actualité, ce qui est mon cas en ce moment, il y a un exemple qui me frappe pour plusieurs raisons, parce que c'est le Canada en ce moment, parce qu'on y a habité 2 ans. C'est un pays qu'on aime beaucoup, et je crois qu'on n'est pas les seuls. C'est un magnifique pays. Et je suis très touchée par ce qui se passe en ce moment au Canada. Alors, je ne fais pas de politique. Simplement, c'est remarquable de voir un pays qui était très compartimenté. Je ne dirais pas divisé, mais très compartimenté. Déjà, il y a le Québec avec les Français, puis après l'Ontario avec les Anglais. Et puis, plus on va vers l'Ouest, plus c'est anglophone et différent. Enfin, voilà. C'est très spécial. Arrivé à Vancouver, vous avez vraiment une autre civilisation. Et ce qui est merveilleux, ce qui me touche énormément en ce moment, quand je regarde un peu ce qui se passe au Canada, c'est que ce pays très compartimenté, il a été menacé. Menacé d'être annexé, on va dire. Voilà. Alors, on ne rentre pas là-dedans. Simplement, sous la menace de l'annexion, ce pays retrouve une unité extraordinaire. Ils écrivent des chansons formidables, très mignonnes d'ailleurs, vous pouvez vous amuser à les écouter, il y en a qui sont très très mignonnes, avec tout un tas d'animaux, de castors et tout, ils ont encore leur cœur d'enfant. Et il y a une unité qui se crée, qui est incroyable, incroyable. J'écoutais quelqu'un qui est une Française qui habite au Québec depuis... pas peut-être 10-15 ans, et qui disait qu'elle n'aurait jamais imaginé cette unité. Elle n'aurait pas imaginé. Et pourquoi est-ce qu'ils se sont unis? Parce qu'ils doivent faire face à une menace d'annexion. Et brutalement, l'Ouest et l'Est, les Français, les anglophones, tout le monde se dit « Nous sommes le Canada ». Et ça me parle beaucoup. Parce que nous, chrétiens, c'est normal, on est tous différents, pareil, hein. Comme le Canada. On ne parle pas tous la même langue, on n'a pas tous les mêmes arrière-plans religieux. Mais si on prenait conscience seulement de la menace qui pèse sur nous par l'ennemi, peut-être qu'on serait beaucoup plus unis. Ça a marché au Canada. Si vous avez le temps, regardez sur YouTube un peu la façon dont... Il y a un enthousiasme en plus. Ce n'est pas simplement « on s'unit parce qu'on a peur ». Non, non, c'est un enthousiasme pour s'affirmer. Ils retrouvent leur identité canadienne. Alors qu'avant, c'était « moi, je suis québécois, moi, je suis de Vancouver, moi, je ne sais pas ». Maintenant, ils retrouvent une unité parce qu'ils sont menacés, parce qu'ils sentent qu'ils ont un danger en face. Et nous, misère, mais le Seigneur n'a pas arrêté de nous le dire. L'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Est-ce que ça ne devrait pas nous aider? Ce n'est pas la seule raison quand même, mais ça devrait nous aider à nous unir et à nous aimer. C'est marrant maintenant. Oh là là, les gens d'Ontario, ils aiment les Québécois, ils aiment les gens du Manitoba et ainsi de suite. C'est très rigolo. Moi, ça m'amuse. Quand on a vécu là-bas 2 ans, on sent un peu les choses. Voilà, donc... réfléchissons à ça en tant que chrétiens. Si on se retrouvait sur une île déserte avec des chrétiens de toutes sortes de différences, et il faudrait bien s'unir pour survivre. Et voilà, donc c'était une petite pensée en passant.
Juste pour confirmer ce que Michel a dit, quand nous sommes arrivés au Canada en 72, en fait, le Premier ministre, il avait découpé en morceaux et mis dans une valise. Donc, vous voyez, on est loin de cette unité-là. Hein.
Ah oui, oui.
Il y avait vraiment de la violence dans leur façon.
Et de l'animosité, hein, carrément. Donc, c'est beau, moi, ça me fait plaisir. Voir l'unité, vous savez, je ne sais pas ce que ça fait, mais ça fait du bien de voir des gens qui sont dans l'unité. Je ne sais pas, moi, j'aime bien regarder même leurs chansons, leurs chants patriotiques et tout. Je me dis, oh, c'est beau quand même qu'ils en soient arrivés là. Espérons que ça dure, hein. La politique, les humains sont ce qu'ils sont. Mais... voilà, j'ai pensé que c'était une bonne parabole pour nous, chrétiens. On a le même ennemi qui passe son temps à rôder pour nous dévorer et on va chercher à se dévorer les uns les autres de temps en temps. Faire son boulot, quoi. Comme disait quelqu'un qui était venu prêcher au point du jour il y a quelques dizaines d'années, disait « Oh bah, le diable, il n'a pas trop de travail à faire en France. Les chrétiens font son travail de division, etc. » Donc voilà. Moi, ça me fait du bien. Du coup, je regarde ce que font les Canadiens en ce moment et ça m'inspire. Comme quoi. Allez, on va revenir à nos moutons. Un petit rappel rapide pour se remettre dans l'histoire. Alors, c'était Deux Rois, chapitre 3. J'avais donné comme titre Le peuple de Dieu et le secours de l'Éternel. Et on va parler justement du secours de l'Éternel. Joram, fils d'Akab, donc vous vous souvenez, Akab, hein, c'est ce roi idolâtre qui a vraiment été très méchant avec notre prophète Élie. Il est roi d'Israël et le peuple de Moab qui lui payait un impôt se révolte contre lui et contre en général la domination d'Israël. Donc Joram, fils d'Akab, va s'unir avec Josaphat, qui était le roi donc du sud de la tribu de Juda, qui lui est un roi fidèle à l'Éternel. Et puis il s'allie au passage avec le roi d'Édom, qui lui est tout au sud, parce qu'ils vont traverser son territoire. Et donc les trois rois se réunissent pour punir Moab en quelque sorte et mater la révolte des Moabites. Bon, au bout de 7 jours de marche, vous vous souvenez, il y a plus d'eau. Et c'est la réaction de Joram qui m'intéresse, c'est que sa première réaction, c'est de dire « Quel malheur, l'Éternel a appelé les trois rois que nous sommes pour les livrer entre les mains des Moabites. » C'est la faute de l'Éternel, bien entendu, c'est l'Éternel qui décide ça. Il écoute son âme. Et vous savez, si nous, on écoute notre âme, parfois, on peut être vraiment découragé, hein. Notre ressenti, notre peur et notre logique humaine font que, bah, si on commence à écouter notre âme, on coule. Mais plus grave encore, il va même jusqu'à accuser l'Éternel de les appeler à la défaite. Alors, est-ce que ça nous arrive pas parfois, hein? Accuser l'Éternel, bah oui, c'est Dieu qui nous mène à la défaite. Non. Alors par contre, son esprit, à ce brave Joram, il est plus du tout en relation avec Dieu, forcément, puisqu'il est dans l'idolâtrie jusqu'au cou. Ça peut pas lui venir en aide. Il est trop habitué aux dieux étrangers, aux idoles, aux Baals, aux Astartés, toutes les idoles cananéennes. Et puis, il sait très bien que ces idoles-là, bah souvent, elles abandonnent leurs adorateurs. Et elle les amène à des défaites assez retentissantes en face de Dieu, soi-disant plus fort qu'eux. Voilà, il y a toute une mythologie dans leur tête, hein. Ah, si on va vers un dieu d'un pays étranger, peut-être il peut être plus fort que nos dieux. Donc voilà, vous savez, c'était très compliqué. Et du coup, il reproduit ça avec l'Éternel Dieu. Rien à voir avec Dieu. Alors, on avait remarqué qu'avant de partir en guerre, il n'avait pas consulté l'Éternel, comme David l'avait fait, vous vous souvenez, on en a parlé la semaine dernière, ni pour la guerre en elle-même, ni pour savoir avec qui on va partir en guerre. Bon, ça, c'est un peu catastrophique. Et Joram, donc, a une idée très, très négative sur Dieu. On va voir, il va répéter la même phrase d'ailleurs. Et on s'était dit, bah, et nous, est-ce qu'on consulte le Seigneur avant de prendre des grandes décisions? Est-ce que si on ne l'a pas consulté, on se retourne un peu contre lui pour dire comme, vous savez, dans la parabole des talents, mais tu es un maître dur. Voilà, quand on ne le consulte pas, effectivement, on risque d'avoir des problèmes. Mais aussi, parfois, on a consulté Dieu, on a prié, on a cherché à faire la volonté de Dieu, et puis les choses vont mal quand même. Hey, ça arrive, et on ne comprend pas. Et effectivement, la tentation, là, c'est d'accuser Dieu. Ah, Seigneur, tu nous mènes à la défaite, là. Moi, j'ai fait mon travail, je t'ai consulté, j'ai prié, j'ai demandé conseil, etc. Alors que qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là, au lieu de se révolter, ben, demander, rechercher Dieu dans la prière. Seigneur, on peut lui dire pourquoi, mais il est hors de question de l'accuser quand même. On peut lui dire, Seigneur, pourquoi j'en suis là, qu'est-ce que tu veux m'apprendre, etc. Et souvent, si Dieu nous mène dans des difficultés, c'est au passage pour nous apprendre certaines choses. Et c'est pas très agréable, hein, j'en conviens, mais n'accusons pas le Seigneur, surtout pas. Alors, Josaphat, roi de Juda, lui, comme j'ai dit tout à l'heure, il est beaucoup plus sérieux et il est fidèle à Dieu. Et lui, sa réaction devant Joram qui dit, ouais, Dieu, l'Éternel Dieu nous mène à la défaite, il dit, n'y a-t-il pas ici un prophète de l'Éternel pour qu'on puisse le consulter? Ah, enfin, une bonne réaction. Ils auraient dû le faire avant, mais enfin, on avait dit, vous vous souvenez, il n'est jamais trop tard pour consulter le Seigneur. Il ne faut jamais se dire, comme l'exemple que je vous ai donné la semaine dernière, « Oh, j'ai trop fait de bêtises, ah non, je ne vais plus prier parce que, oh là là, je ne mérite pas, ou bien je ne suis pas assez digne. Ah, » Malheureusement, ce monsieur qui m'avait dit ça, c'est dommage, c'est dommage. Ses parents étaient chrétiens et il aurait pu vraiment revenir au Seigneur à l'occasion de ces menaces de mort qu'il avait eues. Voilà, il ne faut jamais en arriver là. Jamais, jamais, jamais. Il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Jamais. Et l'idée qu'on a fait trop de bêtises ou trop désobéi, ça ne doit pas être un obstacle. Même si c'est vrai, ça ne doit pas être un obstacle à revenir vers le Seigneur. Parce que souvent, on confond la culpabilité et la repentance. Attention, c'est deux choses complètement différentes. La culpabilité, oui, c'est reconnaître ses fautes, mais c'est rester dessus. Oh, de toute façon, je ne vaux rien, j'ai désobéi, Dieu m'a rejeté, c'est fini pour moi, etc. Et la culpabilité, ça peut mener au suicide. Hein? Alors que la repentance, c'est très positif. Ouais, je reconnais que j'ai fait une bêtise, mais je sais que j'ai un Dieu qui pardonne, je vais aller trouver Dieu, je vais lui demander pardon, et puis l'affaire va être réglée. Et puis il y a encore un espoir pour moi, Dieu a pour moi des plans d'avenir et d'espérance, etc. Oui, c'est complètement différent. Dans les deux cas, on reconnaît sa faute, mais dans un cas, on coule, et dans l'autre, on revient à la vie. Donc, faut bien faire attention à ne pas mélanger les deux. Alors, les trois rois décident d'aller vers Élisée, puisque Josaphat, il y a un homme dans sa troupe qui dit « Mais oui, il y a ici un prophète de l'Éternel. » Et ce qui est merveilleux, c'est que la première réaction de Josaphat, c'est de dire « Oui, cet homme a la parole de l'Éternel. » Il le reconnaît. Et ils vont tous les trois, c'est marrant, hein, tous les trois, il y a quand même un roi païen, un roi idolâtre et un roi fidèle, c'est bizarre comme attelage. Ils vont voir Élisée et alors là, ce qui était un peu choquant, hein, on a vu ça la semaine dernière, Élisée ne reçoit pas Joram aimablement, mais alors pas du tout, on s'attend pas à ça du prophète, mais vraiment pas du tout. Hein. Et pourquoi ? C'est pas qu'il déteste le bonhomme, mais ce qu'il déteste, c'est le mélange, et ça on le sent dans la Bible très très souvent. Vous savez, l'impureté, on dit c'est quoi l'impureté ? Ben, si je bois mon vin pur, ça veut dire que je ne l'ai pas mélangé à de l'eau par exemple. Et l'impureté, c'est le mélange. Et mélanger les choses de Dieu avec l'idolâtrie, c'est une catastrophe. Et c'est ça qu'Élisée ne supporte pas. C'est ça l'impureté, c'est ce mélange. Et il faut qu'on soit prudent en tant que chrétien de ne pas faire de mauvais mélanges. C'est difficile parce que parfois, ça joue avec les cultures religieuses, les cultures des différents pays. Attention de ne pas mélanger la parole de Dieu, de ne pas mélanger le culte au Seigneur avec des choses qui viennent pas du tout de Dieu. Et c'est ce mélange qu'Élisée ne supporte pas. Et ça le met de très mauvaise humeur, hein. On avait remarqué, mais je le comprends aussi, Élisée lui a raconté, certainement en long, en large, en travers, puisqu'ils ont passé beaucoup de temps ensemble, tout ce que Dieu avait fait, la sécheresse, comment il avait été nourri par les corbeaux, comment l'huile de la veuve s'était multipliée, et la farine aussi, la résurrection de son fils, la sécheresse qui, enfin le feu sur l'autel, puis la pluie, la sécheresse qui prend fin, tout ça, Élie a dû lui raconter. Élisée comprend pas. Comment cet homme qui est au courant de tout ça, qui a vécu ça avec son père, il trouve encore moyen d'accuser l'Éternel, de l'emmener à la défaite. Et ça, je comprends, c'est une sainte colère. Il a rien contre le bonhomme en lui-même, mais c'est pas compréhensible ce truc. Surtout quand il dit, en plus, ça c'est quand même choquant, quand Élisée en colère lui dit « Pourquoi tu ne vas pas consulter les prophètes de ton père et de ta mère ?» C'était les Baals et les Astartés. Et il répond en plus « Non, parce que c'est l'Éternel qui nous aime. » Donc je ne vais pas consulter les idoles, elles sont pour rien les pauvres idoles. Hein. Mais c'est l'Éternel qui nous a amenés à la défaite. Non, mais il répète la même phrase. Pensez qu'Élisée, il n'est pas content, mais pas content du tout. Alors, la première chose va faire Élisée, il rétablit la vérité. Dieu est le maître de l'univers. Il rétablit la vérité en disant « Il est vivant », contrairement aux idoles qui sont un fruit de l'imagination. « Je suis son serviteur ». Mais il est vraiment un peu hors de lui et on peut se dire « Oh là là, Élisée est en colère ». Eh oui, sainte colère, Il y avait de quoi. Il a horreur qu'on puisse mépriser Dieu de cette manière-là, de la part d'un roi d'Israël, encore un roi cananéen. Et on avait vu qu'il demande un joueur de harpe, un musicien, et ça fait penser à Saül, hein, qui demandait à David de jouer pour calmer un peu son état d'agitation. Alors, les musiciens à l'époque, je me suis un peu informée parce que je les vois, mais c'est clair qu'ils chantaient et ils jouaient des psaumes. Donc, les psaumes de David, pour la plupart. Et là, je m'étais posé la question, qu'est-ce que ça lui fait? Pourquoi il veut ça? Eh bien, il avait déjà besoin de laisser de côté sa colère. Donc, quand vous êtes en colère, vous pouvez vous mettre de la louange. Besoin de laisser de côté la colère, elle était justifiée. Mais ce n'est pas comme ça qu'il pouvait entendre la voix de Dieu. Même lui, le prophète Élisée, ben ça le bloquait. C'est normal. Même si c'était une colère sainte, une colère justifiée, mais dans un état de colère, pour écouter Dieu, ce n'est pas évident. Donc, il va demander à se calmer quelque part, calmer sa colère. Sa chair, son âme sont tellement bouleversées que son esprit n'arrive plus à entendre le Seigneur. Et là, évidemment, on avait parlé de l'importance de la louange dans notre vie quotidienne. On peut écouter des chants de louange maintenant absolument partout, dans notre voiture, partout, en faisant son jogging. Incroyable. C'est un grand, grand privilège que n'avaient pas les gens à cette époque-là. Il fallait faire venir un musicien. Imaginez si chaque fois que vous aviez besoin d'entrer à la louange, il fallait appeler Moïse pour qu'il vienne vous jouer de la musique et prier et chanter avec vous. Hein. Pauvre, il n'aurait pas assez de ses deux jambes. Mais la louange, c'est important. On peut en avoir à tout moment. Alors, ce n'est pas un truc, ce n'est pas magique. Ça non plus, j'aime pas. Hein. Non, ce n'est pas magique. C'est pas, oh, je mets la louange et puis voilà, ça va tout changer. Non, c'est notre cœur va vers la louange. Et à quoi ça... Qu'est-ce que ça apporte? Déjà, ça nous aide à nous détacher de nos préoccupations pour écouter le Seigneur, pour qu'il puisse parler à nos cœurs. Parce que notre âme aussi, elle a besoin, elle existe. Et souvent, elle va plutôt vers l'autre côté, vers l'humain, vers la chair, vers notre homme naturel. Donc, elle a besoin d'être bien nourrie de bonnes choses. Donc, se détacher de nos préoccupations. Alors, au culte le dimanche... C'est vrai que la louange ensemble nous permet d'exprimer notre adoration au Seigneur, de préparer nos cœurs à écouter sa parole et de faciliter une coupure avec nos soucis, notre chagrin, nos préoccupations. Alors ça ne se fait pas automatiquement, mais si on rentre dans la louange, progressivement, nos soucis, nos préoccupations vont diminuer. Alors je me souviens d'un leader de louange il y a très très longtemps qui disputait un peu les gens en commençant la louange. Je sais que ça ne sera pas le cas ici, mais moi, je n'aimais pas trop ça, parce qu'à l'époque, j'avais un souci monstre avec deux enfants, dont un hospitalisé, je me souviens ce jour-là. J'étais au 36e dessous, parce que sa vie était en danger. Et entendre quelqu'un à la louange dire « Bon, maintenant, rentrez à la louange, abandonnez vos préoccupations, hein, c'est quoi ça? Vos valises, déposez vos valises, etc. » Ça m'est resté. Hein. Et je pense que vous vous sentiriez la même chose si vous arrivez au culte, chargé, préoccupé, les larmes coincées là, et qu'on vous gronde. C'est pas ça la louange, c'est pas ça. Mais rentrez quand même, faites l'effort de rentrer un petit peu dedans, tout doucement, tout doucement. Et Dieu va prendre soin de vous, de votre chagrin, de vos soucis. Donc c'est important cette coupure avec nos soucis et nos pensées qui galopent tout le temps. Et j'avais précisé la dernière fois, on n'oublie pas que le temps de louange, c'est la seule chose qu'on peut apporter vraiment à Dieu, qui vient de nous et qui n'est pas pris sur quelque chose que Dieu nous a donné. C'est vraiment l'offrande de nos cœurs. Seigneur, je te loue, je t'adore parce que tu en es digne. Pas forcément parce que j'ai eu une super semaine, pas forcément parce que tout roule en ce moment pour moi, mais parce que dans l'absolu, tu es Dieu. Tu es souverain et je t'adore parce que tu es Dieu. Et vous savez, les gens idolâtres, ils sont formidables dans ce domaine. Regardez un peu les adorateurs d'idoles dans le monde entier. Comment ils arrivent à faire abstraction de leur misère physique, morale, matérielle, pour adorer des fruits de l'imagination. C'est horrible. Et nous, chrétiens, on sait que c'est le créateur de l'univers. On sait qu'il est tout puissant. On sait qu'il a tout dans sa main. Et qu'est-ce qu'on a comme mal ? Bon, évidemment, il y a une raison. L'ennemi ne veut pas. Comme d'habitude, c'est lui qui met beaucoup de bâtons dans les roues. Mais pensons-y le matin au culte. Quand on arrive et qu'on n'a pas envie de louer Dieu. Parce que ça ne va pas bien. Ben oui, c'est normal. Ce n'est pas grave. Essayons quand même, tout doucement, de rentrer dans ce temps de louange. Parce que c'est important. Parce que c'est la seule chose qu'on peut vraiment offrir à Dieu. Et vous savez, moi, quand j'étais plus jeune, je me disais, oh bon, c'est pas grave, si vous manquez la louange, hein, c'est pas grave, essentiel si vous arriviez pour la prédication. Non ! Dieu m'a montré que non ! Non, parce que c'est le seul truc que vous pouvez offrir à Dieu. Alors, si ça, vous dites, oh, Seigneur, écoute, hein, t'as beau être le maître de l'univers, t'as beau être le créateur, mon sauveur, blabla, mais finalement, j'ai pas besoin de venir te louer, je viendrai après la louange. Ou alors pendant la louange, j'ai connu ça aussi, je terminerai mon courrier sur mon ordinateur. J'ai vu ça aussi. Cherchez pas, c'est pas des gens qui sont ici. Mais non, non. Alors, on veut pas être désagréable, mais honnêtement, pourquoi priver le Seigneur ? On peut, imaginez, on peut priver le Seigneur de quelque chose qui lui fait du bien, lui aussi. Parce qu'il a des sentiments. Regardez dans la Bible, on peut attrister le Saint-Esprit. On peut attrister Dieu. Et quand il voit son Église réunie, et que, par exemple, moi, je vais être dans le souci pour quelque chose dont je ne vais pas arriver à rentrer dans les champs. Il y en a un autre qui une autre préoccupation, etc. Et lui, il voit nos cœurs. Et il se dit, mais c'est tout ce qu'ils ont pour moi ? C'est tout ? Donc, prenons ça au sérieux et partageons-le avec les autres aussi. Moi, je le dis toujours aux enfants, à l'école du dimanche, aux jeunes, aux ados. Attention, la louange, c'est la seule chose que vous pouvez offrir à Dieu. Faites un effort. Faites un effort. Au début, ça demande un effort, oui, parce que parfois, on n'est vraiment pas en forme. Mais faisons attention, parce que la louange tous ensemble, c'est quelque chose en plus de très, très puissant. Et voyez, je reparle du Canada là, mais en ce moment ils composent des tas de chants parce qu'ils s'unissent et ils ont envie de contaminer les autres pour que tout le monde soit dans la joie, tout le monde soit dans la force, dans le, on va pas se laisser annexer, on existe, etc. Bon, et ben nous nos chants c'est aussi pour dire Seigneur tu es avec nous, on va pas se laisser annexer par l'ennemi, on va pas le laisser prendre la place. Donc, on fait ça ensemble, la louange ensemble. Rappelez-vous, ils mettaient souvent les groupes de louange au début, enfin, en face de l'armée, hein, premier rang de l'armée. Donc, faisons tous nos efforts pour ne pas louper les temps de louange et pour ne pas avoir la tête ailleurs. Pensons à qu'est-ce que Jésus pense. Ça, on dit pas « what would Jesus do ?» Qu'est-ce que Jésus ferait ? Mais moi, ce matin, j'ai envie de dire « qu'est-ce que Jésus pense ?» Si on a la tête ailleurs pendant tout le temps de louange. Et parce qu'on a des bonnes raisons, attention, du chagrin, de la peine, des soucis. Mais voilà, faisons un petit effort. Peut-être on ne va pas réussir pour le premier et le deuxième chant, mais le troisième. Voilà, faisons l'effort de rentrer dedans par respect pour le Seigneur. Hein, c'est très, très important. Très, très important. Et puis, c'est une force, la louange. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. C'est pas rien. Alors, on le fait pas pour ça, on le fait pour adorer Dieu. Mais le fait est, quand une église entière est unie dans la louange, elle est délivrée de ses ennemis. Ça sert à l'unité et ça sert à l'amour aussi. Vous savez, toute une église qui chante ensemble de tout son cœur. Waouh, ça impressionne. Hein. Là, on a les gens qui viennent pour la première fois. Ils sont touchés. Hein. Et Florence, quand elle était à l'école biblique, disait, vous étiez combien, 1000 le matin pour la louange ? 1000 jeunes, vous imaginez, dans un temps de louange, ça marque, voilà. Et même si on n'est que 30, 50, 100 ici, et qu'on est unis dans la louange, vous allez voir. Parce que j'ai la foi que ça va arriver. C'est déjà super en ce moment. Mais je crois qu'on va encore progresser. Et que cette unité, cet amour, bah, il va couler assez naturellement. Hein ? Voilà, donc je voulais vous encourager, parce que moi j'ai fait ce trajet, hein. J'ai été du temps où je me disais, bon, l'important, c'est de ne pas louper la prédication, parce que j'aime bien écouter les gens prêcher. Mais Dieu m'a montré qu'il y avait autre chose. Voilà. Alors, profitons de ces temps de louange, comme Élisée. Ce n'est pas magique, mais c'est une grande aide pour nous approcher du Seigneur. Alors, Élisée, il a écouté la musique. Il est prêt à entendre la voix du Seigneur. Et qu'est-ce que lui dit le Seigneur ? Creusez des fosses dans cette vallée. Vous ne percevrez pas de vent, vous ne verrez pas de pluie. Cette vallée se remplira d'eau et vous boirez. Bon, alors là, c'est vrai qu'ils sont dans une vallée au pied des collines, mais ils demandent beaucoup le Seigneur. Il ne faudra pas se fier à ce que l'on ressent, le vent. Vous savez, parfois on le sent, hein, on sent la pluie arriver, il y a un vent un peu bizarre là, je ne sais pas trop bien le définir, on est « oh là là, il va pleuvoir, il faut vite enlever le linge qui sèche dehors ». Le vent annonce la pluie. Alors on ne se fie pas à ce qu'on ressent et on ne se fie pas non plus à ce qu'on voit. Parce que vous ne verrez pas la pluie tomber, mais il y aura de l'eau. What ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est nouveau ! Je marche non par la vue, mais par la foi. Et ils ont dû marcher par la foi. Et pourtant, la pluie, normalement, elle vient d'en haut, on la voit arriver. Élie, quand il a prié, il a envoyé son serviteur voir. Il a vu qu'il y avait un petit nuage au bout de la énième fois. Et la pluie était promise, et c'est la pluie qui a mis fin à la sécheresse. Donc, ils viennent de vivre ça. Enfin, Élie vient de vivre ça. Tout ça, c'est logique, c'est parfaitement biblique. Et pourtant, ce jour-là, Dieu a décidé de faire autrement. Le comment est dans les mains de Dieu. Comment Dieu va vous sortir d'affaires ? Comment Dieu va nous bénir ? Comment Dieu va résoudre nos problèmes ? Comment Dieu va nous donner la marche à suivre pour une situation ou une autre ? Eh bien, ça, c'est entre les mains de Dieu. Et là, il faut la foi pour dire « Seigneur, je te fais confiance, je ne vois rien, je ne sens rien, il n'y a rien qui vient, mais je te fais confiance. » Ah, c'est dur, le comment est dans les mains de Dieu. Et ce qui est encore plus compliqué avec Dieu, c'est que il ne fait jamais, pas souvent, des choses de la même manière. Ah, la dernière fois, il a fallu qu'Élie aille prier sur le sommet de la montagne, envoie son serviteur voir si les nuages arrivaient, etc. Là, la pluie viendra, mais vous ne la verrez pas, vous ne sentirez pas le vent. Alors, par contre, creuser des fosses. Alors, est-ce qu'il y a un geyser ? Est-ce qu'ils vont toucher une nappe phréatique ? Non, même pas. Donc, je ne sais pas, ces pauvres gens qui n'ont pas d'eau depuis 7 jours, enfin, ils ne devaient pas en avoir beaucoup, ils creusent des fosses, ils devaient être fatigués. Il fallait y aller par la foi. Il y a des moments comme ça dans notre vie où on est fatigué. Et Dieu nous dit quoi ? Creuse des fosses. Oh non ! Non ! Et il faut le faire par la foi. Se préparer. Préparer des réservoirs pour pouvoir boire et faire boire les animaux. Et il y avait une autre raison, on va la voir tout à l'heure. Comment est-ce que l'eau va venir ? Alors bien sûr, nous on sait maintenant hein, que quand la pluie tombe dans les montagnes beaucoup plus loin, les ouettes, ça s'appelle, hein, j'ai vu ça, dans ces pays chauds, se remplissent très très vite, à tel point que je me souviens quand on avait fait le tour des États-Unis, on est arrivé dans ces régions, vous savez où il y a les cow-boys avec les grands rochers là, dorés, c'est magnifique, hein, c'est très joli à voir, et on se promenait au pied de ces trucs-là, là. Et oh là là, c'est marrant, il y avait comme un grand chemin. Puis au bout d'un moment, on a vu des panneaux. Attention, en cas de pluie, vous n'avez que X minutes pour partir avant d'être noyé, quoi. C'était difficile à croire, hein. C'était sec comme un bac à sable pour enfants. Sec. Et là, il nous disait qu'on n'avait que quelques minutes pour partir si jamais il pleut. Moi là, non, franchement, j'y croyais pas, quoi. Mais je vois dans la Bible que c'est vrai, et je l'ai lu après que c'est vrai, que quand un ouette se remplit, c'est en quelques minutes. Et la pluie, on la voit pas tomber, elle tombe beaucoup plus loin. Mais comme le sol est un peu imperméabilisé par la sécheresse, ça... Alors peut-être les gens qui ont vécu dans des pays chauds, ils ont connu ça, mais aux États-Unis, donc ils mettent des panneaux pour nous prévenir, ne pas rester à proximité. Franchement, hein, on n'y croyait pas trop. Mais bon, on a obéi, mais bah, maintenant, je m'aperçois que oui, c'était important. Alors, ces pauvres trois armées, là, ils auraient pu le chanter le psaume 21. « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel. » Alors, je voulais dire quand même, on est parfois très surpris du secours de Dieu. Là, il y avait de quoi ? Parce qu'on l'attend ici, il vient là, On l'attend parfois, par exemple, de nos amis. Puis Dieu va nous envoyer l'aide d'un inconnu parfait qui va se dévouer pour nous. On a tous des témoignages comme ça. C'est surprenant. Hein, on attend parfois de la part de nos familles, les parents, ou bien inversement, les enfants, les frères et sœurs, les collègues de travail avec qui on s'entend bien. Et puis non, Dieu va envoyer un étranger complet parce que c'est de l'Éternel que vient le secours. Et le comment, c'est entre ses mains. Il utilise qui il veut et comme il veut. Et ça, c'est dur pour nous. Parce qu'on dit, oui, mais un tel, il va m'aider, etc. Parfois, on se dit, ah, mais j'ai beaucoup aidé ces gens quand ils étaient dans les difficultés. C'est eux qui vont m'aider maintenant. Ça peut arriver. Mais parfois, vous savez, dans la vie, les humains sont capables, consciemment ou inconsciemment, de rendre le mal pour le bien. On a tous vécu ça dans nos vies. On a fait du bien à des gens, ils vous rendent du mal. C'est des choses qui arrivent. Parfois, c'est conscient, parfois, c'est inconscient. Mais David a vécu plusieurs situations de ce genre. Je vous lisais le psaume 66, par exemple. Psaume 35 aussi, où il ne comprend pas parce qu'il a fait tellement de bien. Il a prié avec eux. Il était malheureux quand ils étaient malades. Et puis ces gens-là sont retournés contre lui, sans raison. C'est des choses qui arrivent. C'est pourquoi le psaume 60, verset 14, nous dit quelque chose de très, très important. Le secours de l'homme n'est que vanité. On ne peut pas compter dessus. Dieu va peut-être se servir de gens. Mais on ne peut pas dire, voilà, un tel va m'aider, ou un tel m'a aidé, ou telle association. Le secours de l'homme n'est que vanité. Jérémie 17, verset 5. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Qui se confie, c'est-à-dire qui s'appuie, qui compte sur l'homme. On ne peut pas compter sur l'homme. Est-ce qu'on peut déjà compter sur nous? Pas toujours, hein? Donc, vous imaginez, Jérémie 17, verset 7. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Là, c'est absolu. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Donc, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Après, il fera comme il voudra, avec qui il voudra. Et on est surpris parfois des gens que Dieu va utiliser pour nous aider. Parfois, ce sont des gens absolument incroyants qui vont prendre notre défense, au travail par exemple. C'est des choses, c'est incroyable ce que Dieu fait. Et là, dans ce texte, bah, ils ne peuvent pas se confier dans la vue, ils ne peuvent pas se confier dans le ressenti. Y a trois armées à abreuver quand même. Et la conclusion logique humaine, ce serait de dire, bah, on est fichu. Dieu veut notre défaite. Joram ne s'est pas privé de dire ça. Il représente bien nos pensées humaines. Mais ils vont quand même creuser par la foi, malgré la fatigue, la soif, les jours de marche, 7 jours. Alors, on peut se dire, mais comment moi, je peux creuser des fosses dans ma vie? Comment est-ce que je peux me préparer à recevoir ce que Dieu a en réserve pour moi? Alors, les jeunes, ils peuvent se préparer en travaillant leurs études, en faisant ce que Dieu leur donne à faire, en entretenant leur relation avec le Seigneur, nous aussi. On peut se préparer à accueillir les bénédictions de Dieu. Et on va voir, je pense que ça sera la semaine prochaine, dans l'histoire de la veuve, Dieu se sert de ce qu'on a. Même si on n'a pas grand-chose. Ça, c'est un truc qui m'a frappée en préparant ce message. Et dans la Bible, effectivement, ça revient souvent. La question, qu'est-ce que tu as? Eh bien, vas-y, travaille avec ça. Ah. Donc oui, on peut creuser des fosses, on peut. On peut se préparer à accueillir la bénédiction de Dieu, même dans le travail. C'est une promotion ou un service pour Dieu. Je me souviens du témoignage de John Beveré, qui avait décidé de servir le Seigneur. Il avait terminé ses études d'ingénieur aux États-Unis. Il était très content de lui. Apparemment, c'était un bon élève. Et puis, il décide de servir le Seigneur. Il va dans une église et tout ce qu'on lui donne à faire, c'est chauffeur, c'est une grande église, chauffeur des pasteurs en visite. Bah, il aurait pu se dire, mais bon, c'est bien gentil, mais qu'est-ce que je vais apprendre, moi, à me taper les embouteillages jusqu'à l'aéroport, aller-retour, X fois par semaine, parce qu'il recevait beaucoup. Et en fait, il a expliqué que ça lui a permis de creuser des fosses dans sa vie. Il a appris des choses, c'était des hommes de Dieu qui avaient une grande expérience et qui ont pu le prévenir, l'encourager, lui apprendre plein de choses. Et finalement, ses voyages à l'aéroport, c'était une bénédiction pour son ministère. Il a creusé des fosses d'une façon un peu bizarre, mais il a creusé ses fosses pour recevoir l'eau, il a reçu un service pour Dieu. Prier, intercéder, c'est aussi creuser des fosses quand l'eau de l'Esprit va se déverser. Qu'est-ce que l'Église fait en ce moment? On cherche à aller de plus en plus dans la prière. parce qu'on on creuse des fosses. On ne voit pas forcément l'eau arriver, on ne la sent pas forcément, bien que, quand même, Dieu répond aux prières, hein, quand même. Mais creusons des fosses dans la prière. Creusons des fosses dans nos vies, plutôt que de dire « Dieu va nous conduire à l'échec ». Alors, la Bible dit « Mais cela ne suffit pas aux yeux de l'Éternel. Creusez, vous boirez, nécessité immédiate. » Mais le but de l'opération, c'était quand même d'avoir la victoire sur cette armée en révolte. Et la promesse est formelle, la vallée se remplira d'eau, même si personne ne sait exactement comment, et l'eau va tomber avec abondance. Toutes les fosses vont être remplies. L'eau a dévalé dans la vallée, et ça va très vite. C'est les flash floods, on appelle ça aux États-Unis, hein, c'est les inondations flash immédiates. Et le verset 20 est intéressant. C'est chapitre 3, verset 20. Au moment de la présentation de l'offrande, l'eau arriva du côté d'Édom et le pays fut rempli d'eau. Au moment de la présentation de l'offrande. Et là, je voudrais juste, peut-être pour terminer, vous raconter cette petite histoire. On creuse des fosses, hein, pendant les réunions de prière pour accueillir la bénédiction de Dieu. Et à Biarritz, c'est une histoire vraie. J'étais dans les assemblées de Dieu à l'époque. J'étais petite quand j'ai entendu ce témoignage. Mais ça m'a vraiment frappée. Quelqu'un à la réunion de prière, alors je crois qu'ils étaient une quinzaine ou une vingtaine à la réunion de prière. Je n'ai plus le chiffre exact. Et quelqu'un dit, il faut intercéder pour nos missionnaires. Ils vont partir évangéliser dans les villages. Alors je ne sais plus dans quel pays d'Afrique. Et il y a quand même des dangers. Donc, ils se sont mis à prier pour la protection. Ils ont prié, prié. Et puis, bon, ils n'ont pas eu de nouvelles tout de suite. Hein, les nouvelles mettaient du temps dans ce temps-là. Il n'y avait pas Internet. Et quelques mois après, les missionnaires étaient en congé sabbatique. Et vous savez, dans les assemblées de Dieu, ils font le tour de toutes les assemblées pendant un an. Je ne sais pas si c'est vraiment du congé, les pauvres. Mais nous, on est contents parce qu'on entend leurs témoignages. Et ils arrivent dans l'église de Biarritz et ils disent « Oh voilà, on a vécu quelque chose d'extraordinaire. On était partis évangéliser dans les villages. Et puis, bah, la nuit est tombée, on a dû s'arrêter avant d'arriver au village. On avait encore quelques kilomètres à faire. On a préféré faire un campement. » Et puis voilà, ils étaient quand même, je ne sais pas, 4-5 missionnaires. Et donc, ils ont monté leur campement, ils ont fait leur petit feu, ils ont mangé. Puis, ils se sont endormis. Le lendemain matin, ils ont fait le trajet jusqu'au premier village qui devait évangéliser. Et puis, là, les gens avaient peur d'eux. C'était là, vous osez à peine s'approcher. Finalement, il y en a un qui est courageux, qui vient les voir et qui dit « Où sont les hommes armés qui étaient autour de vous hier soir ?» Tu m'en es jamais venu avec des hommes armés ?»« Si, si !» Et il donne le chiffre. Je crois que c'était en 15 ou 20. Donc. Et mais attendez, ils n'ont pas du tout regardé, on n'a rien, fouillé nos affaires, regardez. Enfin, ils voulaient instaurer un lien de confiance, ils ne voulaient pas faire peur. Et ils étaient méfiants, méfiants, méfiants. Mais où ils étaient? Ils avaient des épées, etc. Puis ils ont mis un temps fou à comprendre et ils racontent ça à l'Assemblée de Biarritz. Et là, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui fait le rapprochement. C'était quand votre histoire? Ah ben, tel jour, ah, c'est telle saison, enfin... Ils essaient de rapprocher. C'est le jour où on a prié pour vous. On avait à cœur de prier pour vous. Et on était, alors on va dire 15, hein, je n'ai plus le chiffre en tête. On était 15. Et il y avait 15 soldats armés autour de leur campement. Ah, la prière, ce n'est pas de la rigolade. C'est fort, c'est puissant. Pourquoi est-ce que le Seigneur ne veut pas que vous veniez aux réunions de prière? C'est pas compliqué, c'est trop efficace. Vous allez lui créer des ennuis. Non mais quand même, ça se fait pas ça. Hein, eh oui, la prière c'est efficace. La prière c'est puissant. Et vous savez, toutes ces années que j'ai vécues dans mon église, dans d'autres églises, j'ai toujours vu la même chose. La prière est efficace, elle est puissante. C'est comme creuser des fosses et là l'eau peut arriver. On n'a rien de temps. Les fosses sont creusées, elles sont prêtes. Et si on veut être prêt pour l'évangélisation, si on veut être prêt, bah, il faut prier maintenant. Il faut prier. Il faut reprendre. Alors, prier pourquoi? Parce qu'aussi, on reprend confiance en Dieu. Vous savez, quand on a prié pour Aaron et qu'on a vu l'intervention de Dieu, ben, ça fait du bien. on est content, on est renouvelé. Et on dit, oh, tu es grand, c'est merveilleux. Bah oui, on le sait, mais vous savez, le diable passe son temps à essayer de nous dire le contraire. Comme Joram, là. L'Éternel nous mène à la défaite. Donc, arrêtons d'écouter ce genre de choses et prions. Oui, la prière est efficace. Vous allez dire, oh oui, mais chacun présente sa liste de courses. Et alors? Alors là, vous voyez, avant, je me disais, oui, c'est vrai, c'est peut-être pas bien. On vient vers Dieu, on lui dit, Seigneur, je voudrais ci, je voudrais ça. Et puis, la semaine dernière, on a regardé avec André un documentaire sur le réveil du Pays de Galles. Et oh, surprise! Il racontait que bah, chacun priait pour ses affaires. Leur fils, leur frère, leur santé. Et puis tout le monde priait ensemble. Ça faisait un brouhaha terrible. Et Dieu intervenait. Alors, moi, je pensais qu'ils priaient tous pour leur sanctification, pour, je ne sais pas, qu'ils soient plus proches du Seigneur, etc. Non, chacun déversait son cœur avec tout ce qu'il y avait dedans. Les craintes, les peurs, les soucis, les maladies. Et chacun y allait de tout son cœur. Le problème, c'est qu'ils y croyaient. Ils y croyaient et Dieu agissait. Hein, s'ils n'avaient pas creusé les fosses, l'eau ne serait pas venue. On verra le reste la prochaine fois, je ne veux pas m'attarder trop, mais louange, prière, ça. Bon, c'est un peu vulgaire de dire ça marche, mais c'est vrai. Parce que ça change nos cœurs aussi en même temps. Hein. Pas oublier que plus on va se rapprocher de Dieu dans la prière et la louange, plus nos cœurs vont changer. Et je pense qu'on a tous besoin que nos cœurs changent parce que le monde passe son temps à, j'allais dire, à nous poncer. C'est ce qui peut arracher, il l'arrache. Donc voilà, nous, il faut qu'on fasse l'effort inverse. Mais soyons persuadés que la prière est efficace. Ce témoignage, moi, à Biarritz, ça m'a... J'étais petite, mais ça m'a tellement parlé. Alors quand moi, je suis là en train de prier pour un truc, le Saint-Esprit est en train d'agir à l'autre bout du monde. Waouh! Si on était conscient, et je me le dis à moi, hein, si on était conscient de la puissance de la prière, il n'y aurait pas de petite prière. Moi, j'étais fâchée un jour, quelqu'un avait dit « Oh, c'est de la petite prière !» Non, bah, quand j'ai vu le réveil du Pays de Galles où chacun priait pour son frère, son père, ses enfants, etc., et puis tous étaient là en train de crier à Dieu, je me dis « Ah oui, bah, y a pas de petite prière, même pour un réveil !» Et vous savez, ça a été plus de 100 000 personnes qui se sont converties pendant le réveil du Pays de Galles. 1905, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est à notre portée. Voilà, et je voudrais juste vous encourager. Dans votre bruit de prière personnelle et aussi réunion de prière de l'église, 8h15, 9h30, on respecte les horaires, hein, Charles, on respecte les horaires. Donc, si vous ne voulez pas parler après. Et franchement, branchez-vous si vous ne pouvez pas venir. Mais vraiment, associez-vous à ces petites prières. Mais ces petites prières, elles peuvent amener un réveil.